RMC After Europe. Le podcast. Nicolas Villas.
Oh, vive, bienvenue dans ce nouveau podcast After Europe et bien plus encore. Aujourd'hui, on va surtout voyager dans le temps, plonger dans les années 80. Le professionnel cartonne au cinéma, hommage à Bebel, bien entendu. La France bascule à gauche, alors même si là aussi on pourrait longuement en débattre, notamment avec l'un de nos intervenants pour le Breitner, mais c'est pas le sujet, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française. Et au niveau foot, cette année 80 va marquer un tournant dans l'histoire des Bleus. Nous sommes le 18 novembre 1980, date, vous l'aurez compris, bientôt anniversaire et surtout charnière. L'équipe de France s'apprête à affronter les Pays-Bas en vue d'une qualification pour le Mondial 82 en Espagne, match qui se joue au Parc des Princes. Notre Polo Breitner y était, salut Polo.
Bonjour Nico, bonjour à tout le monde.
Et je sais que ce match t'a beaucoup marqué. Hein.
Oui.
C'est un amoureux des bleus et des oranges. Salut Shérif Guémour.
Salut Nico, bonjour à tous.
Ça va Shérif ?
Ça va,
c'est super. Plaisir de te revoir, ça fait un moment.
Ouais, ouais, toujours là, toujours là.
Et lui, il était sur la pelouse avec le maillot bleu, invité exceptionnel de ce podcast After Europe. Alain Giresse, salut Alain, merci d'être avec nous Alain.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Voilà, une légende dans le podcast, hein. Ça fait plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation Alain.
Ouais, pas de problème. Ça fait du bien de se replonger un peu dans le bon.
Ah bah attends, t'as pas fini. On t'a préparé de la surprise aujourd'hui. Ah, et ben on va se remettre dans le contexte justement de ce France-Pays-Bas, ce 18 novembre 1981. Il est 13h, l'heure du JT. Allumons notre poste de télévision avec un peu de bol. Il est en couleur. Calons-nous sur TF1. Yves Morouzi et sa verve légendaire nous attendent. Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas. Bah vous allez comprendre, il va vous fumer.
Mais d'abord, en commençant ce journal, je vous propose une question. Voulez-vous de l'herbe ? Peut-être, oui. Alors, eh bien, j'ai apporté de l'herbe avec moi et vous pouvez en faire l'usage que vous voulez, l'adorer. En tout cas, ceux qui seront ce soir sur les tribunes du Parc des Princes seront servis. C'est de l'herbe de la pelouse du Parc des Princes, cette pelouse que vont fouler les joueurs français et hollandais pour ce match si important.
Match si important, dit Morouzi, à quelques minutes du coup d'envoi, le ton du JT de 20h sur Antenne 2 qui diffuse la rencontre est carrément grave, échange entre Christine Ockrent et Thierry Roland.
La tâche promet d'être rude pour les Français, c'est un peu de l'honneur national qu'ils auront au bout du pied. Alors Thierry Roland, l'enjeu on le connaît, un dernier pronostic, est-ce qu'on a une chance ?
Ah, eh bien oui Christine, j'espère que nous avons une chance, je pense que même nous avons une première chance, c'est un match très difficile, sans doute le plus difficile de toute l'histoire du football français, sans employer de grands mots.
Alors on va rebondir là-dessus direct, mon cher Alain, la Girex, est-ce que niveau contexte, rapport de force, c'est le match le plus difficile que tu as joué avec l'équipe de France justement ?
En termes d'opposition, il y en a eu d'autres, en termes d'opposition, mais en termes de représentation sur le football et son futur, fatalement, oui. Parce que là, on était vraiment à un moment crucial, c'est-à-dire qu'après les espoirs de 78 à la Coupe du Monde, là maintenant, il fallait valider parce que c'était la montée en puissance de l'équipe de France. Et une élimination, eh bien, c'était retour à la case départ avec certainement tout ce qu'on a pu connaître après n'aurait pas existé ou aurait pris du retard et aurait pris du temps pour se remettre en route. Donc on était vraiment, et je me souviens très très bien parfaitement, toute la tension avec laquelle nous avons vécu cette préparation de match.
Alors Shérif, le match le plus difficile de l'histoire du football français, disait donc Thierry Roland. Alors il faut dire que les Bleus se coltinent les Pays-Bas, finalistes des deux dernières Coupes du Monde.
Alors ils se coltinent les Pays-Bas, les deux derniers finalistes des deux Coupes du Monde, et le finaliste de l'Euro 1980 en Italie, qui est la Belgique. Deux grosses équipes, et Thierry Roland l'avait dit, l'avait rappelé dans son entretien avec Christine Ockrent. Les Bleus n'avaient pas été vernus au niveau du tirage et je confirme ce que dit Alain Giresse. Pour ce match des Pays-Bas, c'est l'un des matchs cruciaux de l'histoire du foot français en effet, parce que si la France ne va pas en Coupe du Monde, elle est déjà un peu sur le déclin, elle n'a pas été très bonne dans les matchs amicaux et les clubs français commencent, on est un peu sur le reflux après la grande période des Verts et des Bastiais, donc si jamais on perd le match, on ne se qualifie pas, la France décroche et retourne un peu dans les profondeurs du football européen.
Alors, c'est vrai que Polo, Shérif vient de le dire, mais au-delà des Pays-Bas, il y avait effectivement la Belgique dans ce groupe de qualif des Bleus hein, pour la Coupe du Monde. C'était le groupe de la mort, hein, clairement.
Mais pour moi, c'était un groupe de la mort. Alors évidemment, Shérif va nous expliquer que les Néerlandais, c'était évidemment pas ceux des années 70, mais en fait, on n'affronte pas que la Belgique, on affronte un pays qui a son âge d'or. Les clubs belges dans les années 70 sont quasiment tous en finale de Coupe d'Europe. L'équipe belge, on l'oublie, mais déjà troisième à l'Euro 72 avec un certain Raymond Goethals en tant que sélectionneur. Évidemment, finaliste de l'Euro 80. Moi, j'ai toujours une image en tête, c'est que le gardien de l'époque, c'est évidemment le grand Jean-Marie Pfaff, mais sa doublure, c'est Michel Preud'homme. Il faut se rendre compte un petit peu de ce que c'est que la Belgique à l'époque. Et si tu le permets, Nico, j'ai une anecdote personnelle. Moi, alors c'est pas comme les grandes ambiances dans ce moment où les tirages au sort, etc., sont télévisés et tout ça. Moi, je me rappelle qu'on avait un énorme transistor à la maison et j'avais mon père qui faisait les 100 pas et à chaque fois il me disait surtout pas les Diables Rouges, les Diables Rouges, les Diables Rouges. Et les Diables Rouges, évidemment, c'était le surnom de la Belgique. Moi, j'étais tout petit donc je savais pas ce que c'était. Et pendant des années, j'ai été traumatisé parce que je voyais des petits diablotins qui sortaient du transistor. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Et je peux t'assurer que quand tu sors les Pays-Bas et la Belgique dans le groupe, dans un groupe pour aller à la Coupe du Monde 82, en oubliant que la France n'a pas énormément de références, faut pas l'oublier, hein. 78 c'était déjà assez loin, 80 on n'est pas là, bah, je peux t'assurer que c'est quelque chose d'extraordinaire, et affronter les Pays-Bas en 81, je me demande d'ailleurs, enfin il faudrait que Chérif le confirme, mais si c'est pas la période où on commence à dire que la France est l'équipe championne du monde des matchs amateurs.
C'est fini, en fait, des matchs amicaux.
C'est
fini. On a perdu en amical contre l'Allemagne 4-1. On a perdu contre le Brésil à domicile 3-1. Ça, c'est fini. Ça, c'est la grande période. C'est plutôt à la fin des années 70. On est un tout petit peu sur le déclin. C'est pour ça qu'on a peur.
Alors justement, Alain, est-ce que au moment du tirage et quand tu vois les adversaires, alors en l'occurrence les Pays-Bas et la Belgique, vous vous dites que vous, les Bleus, vous êtes des outsiders. Est-ce qu'ils vous aient peur ces deux adversaires?
Oui, fatalement. Fatalement, on vient dénoncer un petit peu leur position dans toutes les compétitions. Effectivement, on est dans une période où, en ce qui concerne la Belgique, on les bat pas. Il y avait surtout un match qui se déroulait toujours autour du 11 novembre. Il y avait un coup en France, un coup en Belgique. Et la France ne gagnait jamais ce match. Les Pays-Bas, n'en parlons pas, avec un 78, c'est encore finaliste de la Coupe du Monde. Donc voilà, derrière, effectivement, comme l'a dit Paulo Bonner, les clubs belges qui étaient largement au-dessus des clubs français. Donc voilà, on était tous sauf les favoris. Voilà, il y avait quelque chose qui avait commencé un petit peu à se mettre en place, je l'ai dit, avec la Coupe du Monde 78. Et là, on était, il fallait le valider. Voilà. Michel Hidalgo avait impulsé quelque chose pour arriver au haut niveau, avec ses principes de jeu. Et voilà. Mais maintenant, c'était par des résultats et par cette qualification. Alain, je précise, n'oublions pas quand même qu'on s'est toujours arrêté, je ne sais pas si Nicolas, tu vas nous en parler, il y avait deux matchs. Il restait deux matchs pour se qualifier,
ouais,
et non
avait,
pas un seul match.
Il y avait Chypre après derrière, effectivement.
Exactement.
Oui, vas-y, Polo, tu voulais intervenir.
Justement, Alain, tu parlais de la Belgique, mais ce match, cette victoire 3-2 contre la Belgique qui a lieu plusieurs mois avant cette rencontre au Parc, est-ce qu'elle n'est pas déjà décisive? Et comment vous avez... Parce que c'est une belle victoire, 3-2. C'est peut-être la première fois que l'équipe de France joue aussi bien. Est-ce que... D'ailleurs, Platini n'est pas sur le terrain, de mémoire. C'est important.
C'est
important. Et je me demande si, en fait, la véritable naissance de l'équipe de France, c'est pas cette victoire contre la Belgique.
Et effectivement, je pense que ça, c'est un rappel important, très important, parce qu'évidemment, si on ne les bat pas, le match contre la Hollande n'a plus aucune raison d'être. Effectivement, avec un très bon match, Michel était blessé ce jour-là, c'est avec le reste du ce qui allait devenir le carré magique, Bernard Chinguini, Jean Tigana, on se retrouve les trois au milieu, et le match se passe mal, on les bat 3-2 à Paris. Et effectivement, là, ça nous propulse, et ça nous propulse, et ça redonne un petit peu de la confiance, je dis, pour justement espérer de se qualifier. Mais c'est vrai, ce match, c'est vrai, c'est juste de le rappeler, il a son importance pour la suite de ces qualifications.
Et alors, en ce début de ces années 80, la star montante de l'équipe de France, vous venez de l'évoquer, c'est un certain Michel Platini, il n'a pas encore de ballon d'or. Et avant d'affronter les Oranges, il se confie au micro de TF1. Le joueur de Saint-Étienne est alors inquiet et pas mal critiqué.
Inquiet, je le pense. Je vous l'ai dit d'entrée, on nous attend un peu au coin du bois. Et c'est vrai qu'on a de grosses responsabilités. En 77, tout était rose, tout était beau pour moi. Maintenant, chaque fois que je loupe une page, je me fais siffler. Je arrive sur un terrain, je me fais critiquer. Je gagne de l'argent, donc forcément, je suis jalousé. Vous savez, c'est pas toujours très drôle pour moi non plus.
Alors 1977, c'était l'année de la qualif pour le mondial en Argentine. En novembre de cette année-là, Platini avait excellé en qualif face à la Bulgarie. Les Bleus allaient toutefois se faire sortir au premier tour du mondial. Il est inquiet, il le dit, avant d'affronter les Pays-Bas, shérif. Michel Platini.
Il est inquiet, il a été critiqué et sifflé par le public du Parc des Princes le cours d'un match amical du mois d'août. En général, c'était un club allemand. Enfin bon, bref, ça, il est passé à Saint-Étienne. Il y a tout un romantisme auquel on est attaché. Il était à Nancy, hein, donc il était à Saint-Étienne. Le club des riches, le club de Roger Rocher, le club qui écrase tout. Et en fait, la mayonnaise n'a pas bien pris à Saint-Étienne non plus, parce qu'on l'a fait venir un peu comme on fait venir Messi à Paris pour gagner la Ligue des Champions. À l'époque, c'était la Coupe des Clubs Champions. Et ça a du mal à prendre. Ils se sont fait sortir par Mönchengladbach 4-1 à domicile. Il a un statut un peu chahuté. Et ça ne passe pas. Et il y a tout un climat. Alors, on va en parler autour aussi de Michel Hidalgo, de l'équipe de France. C'est qu'il ne faut pas oublier que pour la Coupe du Monde 1982, on va passer à 24 équipes. Et dans les médias français, il est impensable que de passer de 16 équipes à 24 équipes, c'est-à-dire l'équipe de France a a priori plus de chances de passer. Si elle n'y est pas, c'est une catastrophe. Et sur qui on tombe ? Sur Michel Platini, le petit prince qui se la joue, qui est souriant. Parce que attention, hein, Michel Platini a une grosse personnalité. Il répond toujours aux journalistes qui ne sont pas habitués à ça et qui n'aiment pas que ces petites joutes verbales où Platini excelle, hein, une grosse personnalité.
Alors justement, Alain, est-ce qu'il était jalousé, Michel Platini ? Est-ce que finalement, cette défiance qui pouvait exister chez certains supporters dans les médias, elle se retrouvait aussi au sein du groupe France ?
Non. Pas du tout. Il y avait une génération qui était consciente de ce que Michel représentait et que nous étions conscients aussi de nos rôles les uns les autres dans cette équipe-là. Il y avait beaucoup de joueurs avec de l'expérience, de maturité, beaucoup de capitaines de club. Beaucoup de capitaines qui étaient dans leur club respectif, qui portaient le brassard. Donc, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'éternel. C'est aussi, on a un garçon qui s'appelle Michel Platini, qui démontre petit à petit à Nancy, qui est un garçon plein d'espoir, de la qualité. Puis tout d'un coup, il franchit un palier, il va à Saint-Étienne. Ah, là, on attend autre chose. Il arrive à être champion de France avec Saint-Étienne en 81, bien sûr. Et là, c'est l'éternel problème des garçons comme ça, où quand on le découvre, on est subjugué par leur qualité. C'est un peu ce que Kylian a vécu quand il s'est fait siffler au Parc des Princes par le public. Comme Michel, ce match-là, c'était contre Stuttgart en août 81, où il a été sifflé. Il n'a pas fini la rencontre d'ailleurs. Pour quelle raison ? Parce que Michel avait toujours du mal à démarrer les saisons. Et le public était intransigeant, exigeant. Et on a du mal à accepter que tout d'un coup, il faut savoir laisser progressivement le joueur s'épanouir. Et là, l'attente est tellement forte qu'on ne laisse rien passer à ces joueurs.
Oui, Paulo, c'est vrai qu'on l'a entendu dans ce son-là. On le sent affecté presque, Michel Platini. Alors même si on sent la carapace aussi, mais on voit que ça le touche quand même, ces critiques. Hein.
Oui, mais ça, c'est à la rigueur, je veux dire, c'est le métier qui rentre, entre guillemets. Et puis, on n'est pas forcément dans un pays qui reconnaît très facilement le talent d'un joueur ou d'un autre. Moi, ce que je vois surtout, et là, encore une fois, je parle sous le contrôle de Shérif et d'Alain, c'est qu'à l'époque, il y a des problèmes de gardiens au sein de l'équipe de France, qu'on ne sait pas trop qui est titulaire. Hein. Batz n'est pas encore arrivé, il y a Castaneda, il y a Dropsy, il y a différents joueurs. Il y a différents gardiens qui vont être là. Faut regarder aussi le milieu de terrain, parce que moi, j'entends bien Alain qui dit qu'il n'y avait pas de problème au milieu de terrain, mais vous avez vu la qualité du milieu de terrain de la France. Enfin, Gégini, Girès, Platini, aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup en Europe, quoi, des joueurs comme ça qui peuvent...
Lario, c'est Moisan. Exactement.
Il y a l'ancienne génération des années 70 qui va s'éclipser, petit à petit. On oublie qu'on joue avec Six, Rocheteau et Lacombe, c'est quand même trois attaquants aussi. Moi, j'aimerais bien voir en Europe et même dans le monde aujourd'hui quelle équipe joue de cette façon. C'est quand même aussi très intéressant. On ne sait pas trop qui va jouer en défense. Il y a des résultats. Vous avez parlé de Stuttgart qui était un match amical mais qui ne comptait pas. Hein. C'était le club de Stuttgart. Il y a des défaites qui ont du mal à passer. Alain l'a dit tout à l'heure. On ne sait pas trop ce que vaut exactement l'équipe de France malgré cette victoire contre la Belgique. Et finalement, on a quelqu'un, on a le responsable. Tout le monde dit que Platini va devenir un grand joueur, mais voilà, donc qu'il soit critiqué, c'est un petit peu logique, mais c'est aussi le lot, je pense, de tous les grands joueurs dans tous les pays.
Alors justement, si Platini est dans le viseur au cœur des critiques, c'est aussi parce qu'il se dit qu'il a remis en question les choix du sélectionneur Michel Hidalgo. Et là encore, Platoche réponse, c'était là aussi au micro de TF1.
On m'a prêté ces derniers temps des déclarations, alors que je n'ai jamais fait de déclaration, je n'ai jamais critiqué personne, j'ai simplement soulevé un petit problème tactique qui ne voulait pas accuser ni Alain Giresse ni Michel Hidalgo.
Alors ici, tu as Alain Giresse, ça tombe bien, il est dans notre podcast. Et toi, tu as retrouvé alors les déclarations shérif qui sont prêtées à Michel Platini à l'époque.
Alors c'est des déclarations polémiques. Donc c'est François qui a trois jours avant le match. Alors on fait dire à Michel Platini, je cite, « Il n'est pas possible pour moi dans un 4-3-3 de jouer avec Giresse. Hidalgo ne fait pas assez confiance au même groupe. » C'est cette déclaration, on ne sait pas s'il l'a dit, hein, Alain Giresse va nous dire ça, cette déclaration a mis le feu aux poudres et elle a exigé tout de suite une sorte de mise au point entre Michel Hidalgo, Alain Giresse et Michel Platini.
Alors Alain, les Français veulent savoir, que s'est-il passé ce 18 novembre 81, il y a prescription maintenant, quelle a été cette discussion alors?
C'est exceptionnel, ça me fait marrer quand même.
ce qu'on raconte tout ça.
Hein. 40 piges après.
Non, attendez, c'est bien toute la différence qui existe entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est une évidence. oui, effectivement. D'ailleurs, sans compter que justement, pour ce match-là, les médias continuent d'annoncer Platini, Giresse ne peut pas jouer ensemble, etc. Donc, voilà. Le problème entre nous, il n'y en avait pas. Je suis arrivé à jouer en Josas. Là-bas, c'est là où on était, l'équipe de France. Là, on s'est réunis avec Michel Hidalgo, Michel Platini, parce que n'oublions pas que nous avions déjà joué ensemble depuis le match contre l'Italie en janvier 82 et que l'association s'était très très bien passée. Donc pour préciser cela avant ce match-là, j'ai dit à Michel Hidalgo, bon Michel, vous allez nous faire jouer tous les deux. Oui, ça fait partie de... Bon, mais j'ai dit à Michel, ça te pose un problème, numéro aucun. Et moi non plus, bon ben voilà, parce que moi j'étais même pas...
Mais là Alain Platini le dit à l'époque avant ce match, il le dit, on a discuté d'un petit problème tactique, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas visiblement dans la façon de jouer.
Oui, mais ça, je l'apprends maintenant. Si j'avais su avant, ça m'aurait arrangé. Non, sérieusement, non. Non, mais attendez, je ne vais pas tomber dans tous ces délires là aujourd'hui et essayer de justifier l'injustifiable, franchement. Non, c'est pas, on peut l'évoquer comme ça a été le cas médiatiquement, que Michel, est-ce qu'il a dit ça? Même pas. On avait suffisamment d'échanges et de clarté ensemble pour pouvoir l'évoquer, ce qui n'a jamais été le cas. La preuve, sinon... S'il y a des problèmes comme ça, on ne peut pas cohabiter comme on l'a fait. On ne peut pas jouer de la même façon. Donc après, c'était juste une précision. Et puis, je vais dire peut-être que je devance. Et le pied de nez, c'est quand même Michel Hidalgo qui l'a donné en disant « Ah, vous trouvez que deux numéros 10 ne peuvent pas jouer ensemble et je ramène un troisième. » Voilà.
On va y revenir là-dessus aussi, voilà. Alain.
Oui, Alain, en fait, c'est venu des médias qui n'arrivaient pas à concevoir qu'on puisse aligner autant de numéros 10. Alors déjà, associé à Alain Giresse et Michel Platini, et en plus, un Gengini, voire un Tigana, je crois que c'est aussi ça que les médias n'acceptaient pas, ne pouvaient pas se représenter, non?
Oui, mais je le vois aujourd'hui, il y a des débats sur le plan tactique, parce que, là, le dernier en date, Coman, ah oui, mais si on joue contre un grand pays, Coman, il ne peut pas, parce qu'il faut défendre. Mais on est dans les délires parce qu'il y a des situations qui sont largement compensées par rapport aux qualités des joueurs dans un certain secteur de jeu, dans une position. Voilà, c'est la même façon. Il faut aussi quand même, c'est quand même pas des joueurs de maternelle. C'est des grands professionnels qui doivent apporter aussi toute leur contribution par la réflexion à jouer avec les partenaires qu'ils ont et ce qu'ils sont. Voilà, et nous, c'était pareil. La preuve, c'est que quand... aujourd'hui, ne me demandez pas quel débat on a eu sur le plan tactique pour jouer les 3-10 contre les Pays-Bas. Vous pensez qu'on a passé toute la nuit à gamberger pour savoir comment ça s'est passé? Il y a, OK, on va tenir compte les uns des autres et après, l'intelligence de jeu fait le reste.
Alors, juste pour en revenir à ce contexte assez tendu avant le match, Polo, il faut dire qu'avant d'affronter les Pays-Bas, les Bleus ils comptaient 3 défaites sur les 4 derniers matchs de qualif pour la Coupe du Monde. Hein. Ça explique aussi peut-être ces critiques générales autour des Bleus.
Ben, Shérif l'a expliqué, on passe de 16 à 24 pour une compétition et on veut... Parce qu'en fait, le problème, moi je me rappelle très bien, ma première compétition visuelle, entre guillemets, c'est 78. Et si tu veux, on sent... Alors, on tombe dans un groupe à l'époque qui est extrêmement compliqué, hein, donc on se fait sortir en 78, mais ça donne des espoirs quand même. Et le fait de passer en plus de 16 à 24, d'ailleurs, un jour, il faudra aussi revenir sur l'équipe de France des années 60, parce qu'on est toujours en train de dire qu'elle est nulle, sauf qu'il n'y avait pas le même nombre de qualifiés non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des performances qui ont été faites à l'époque qui sont équivalentes à celles de l'équipe de France d'aujourd'hui. Donc c'est, ça, c'est des choses qui me perturbent toujours. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas bons sur tous les matchs. Il y a la défaite face à 4-1 contre l'Allemagne, il y a une défaite en Espagne, il y a en 80, il y a aussi une défaite aussi contre l'Union soviétique, etc. Donc on ne sait pas
trop où on est. Il y a une défaite au Parc des Princes contre le Brésil 3-1, où là, par contre, oui. Là, la France ne voit pas le jour. Et là, on s'inquiète, on dit, oulala, on va retomber dans les profondeurs du football européen.
Tout à fait. Et en plus, il y a le niveau des matchs. C'est-à-dire qu'il y a la défaite en Belgique, on va dire à la rigueur, on a vu le niveau de la Belgique, c'est pas si grave que ça. Mais il y a la défaite en Irlande aussi, 3-2, où l'équipe de France, je crois, fait peut-être l'un de ses plus mauvais matchs de
la
période.
Très chaleureux, absolument.
Et ensuite, on se retrouve dans cette situation, il faut remporter les deux dernières rencontres, et on se tape les Pays-Bas. Alors voilà, moi je voudrais bien qu'on parle aussi un petit peu de ce match, parce que j'ai eu cette chance extraordinaire d'y être. Et c'est là où je voudrais quand même qu'on explique un peu cette rencontre et pourquoi elle est mythique, quoi.
Et bah du coup, ce fameux match face aux Pays-Bas, c'est un tournant dans la façon de jouer des Bleus. C'est la naissance, on vient de l'évoquer, du fameux trio magique. Trois numéros 10 alignés en même temps, en l'occurrence Platini, Gérès et Gengini. Michel Platini refaisait le match, c'était en juin dernier. Il était l'invité de Nico Jamain dans l'intégrale Euro.
Si on refait l'histoire, je pense que d'abord c'était un trio magique. Et qui avait commencé, c'était Alain Gires, Bernard Gengini et puis moi-même.
Trois numéros 10 dans la même équipe.
Voilà. Et ensuite, ça c'était contre la Hollande. Et puis ensuite, pendant la Coupe du Monde, Gentilgana s'est imposé et Michel Hidalgo a mis quatre joueurs. Gentilgana, Alain Gires, Bernard Gengini et puis moi. Et on a fait 82 comme ça. Et ensuite, en 84, il y a Luis qui est arrivé et Michel Hidalgo a mis Luis à la place de Bernard Gengini. Et de temps en temps, Bernard Gengini a joué, et notamment le match contre la Belgique, où Luis Hernandez s'est retrouvé arrière droit. Maintenant, dites qui est le meilleur, lequel est le carré magique, moi je ne réponds pas. Qui se débrouille entre eux.
Ah, c'est vrai que ça peut paraître assez dingue encore de nos jours, hein, de se dire qu'un sélectionneur, qu'un entraîneur aligne trois numéros 10. Alain, quand vous apprenez ça, ou alors quand vous le décidez d'ailleurs, parce que visiblement il y a eu aussi un échange entre Michel Hidalgo, Michel Platini et toi-même, vous réagissez comment d'ailleurs quand vous voyez trois numéros 10 sur la pelouse, vous dites c'est génial ou ça va être dur de jouer de façon équilibrée?
Alors honnêtement, de dire que ça nous a pas fait un peu interpeller. Même un petit peu quand même. Franchement, on a dit, bon, eh bien, maintenant, il va falloir bien s'organiser là au milieu. Effectivement, non, on ne peut pas dire, bon, on n'a pas pris ça, comme si c'était une habitude. Non, pas du tout. Non, on s'est simplement dit, Michel nous fait confiance, à nous maintenant, de mettre tout en œuvre pour que justement, ça soit réussi, évidemment. Tenir mettre en place ce fameux équilibre, les complémentarités, enfin bref, voilà, tout ce qui permettait justement que ce milieu réponde. Et puis la fameuse question que l'on a posée évidemment à Michel Hidalgo, mais alors comment vous allez faire pour défendre? Il a dit, on ne défendra pas puisqu'on aura le ballon.
Ouais. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça peut paraître dingue de se dire, ils vont mettre trois numéros 10, les Bleus.
Non, mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, Michel Hidalgo, il a pris les Hollandais à leur propre piège. Pourquoi? Parce que le 4-3-3, c'est un système estampillé ajaxien néerlandais. Et on a joué leur jeu, et évidemment tout s'est passé au milieu, c'est aussi la force des Néerlandais, c'est-à-dire un milieu offensif et les trois attaquants, avec les vrais ailiers qui sont toujours à numéro 9. Et en fait, on a répondu du tac au tac, talent contre talent, technique contre technique, et intelligence collective contre intelligence collective. Et ce match-là, Michel Hidalgo, il l'a gagné déjà tactiquement au tableau noir, entre guillemets, en prenant les Hollandais à leur propre jeu, 4-3-3 contre 4-3-3. Et évidemment, dans ce match-là, il y avait une sorte de duel entre Michel Platini et Niskens, l'ancien de l'Ajax. Et c'est Michel qui a gagné.
Mon Polo, toi qui étais au stade, ouais. Quand ton papa a découvert la compo d'équipe, il a vu trois numéros 10, quelle a été sa réaction?
Alors lui, il était très Larios, donc tu sais que quand Larios n'était pas sur le terrain...
C'était la sécurité, Larios.
Oui, bien sûr. Il était très difficile de parler de Michel Platini à la maison. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je l'ai vraiment su, mais c'était comme ça. Mais en fait, moi, si tu veux, je me souviens d'une ambiance de folie. Il y avait évidemment la sonorité du parc qui est mondialement connue. Il y avait l'hymne néerlandais qu'on n'a pas entendu. Tout le monde s'est mis à chanter d'un seul coup la Marseillaise dans tous les sens. Moi, j'étais tribune Auteuil, donc c'était la première fois que j'allais dans un stade et donc je voyais tous les culs se lever systématiquement. Tu savais pas pourquoi, donc j'essayais de suivre, de comprendre, parce que je connaissais pas les habitudes dans un stade, etc. Et je vois ça. J'ai été pendant des années persuadé que Michel Platini avait marqué deux buts sur coup franc. Donc, en fait, je l'ai revu dernièrement, c'est qu'en fait, il a un premier coup franc et puis il y a une faute d'ailleurs qui aujourd'hui serait sûrement sifflée comme un pénalty parce que c'est dans la surface.
Faute de main.
Il y aurait la VAR qui serait partie là, et donc il y a un deuxième coup franc un petit peu plus décalé. Et donc moi je suis derrière Van Brokkelen, et là il y a Michel qui envoie le coup franc, qui l'envoie sur la gauche de Van Brokkelen. C'est un truc complètement fou.
Et bah justement, place au match. Les Bleus doivent donc battre les Pays-Bas, finalistes des deux dernières Coupes du Monde, pour espérer se qualifier pour celle qui arrive en Espagne. Un match qui va entrer dans la légende et légendé par les tout aussi légendaires Thierry Roland et Jean-Michel Larqué.
Allez Michel, voilà, oui Michel.
Oui Michel, et le voilà, un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
Oui, on efface tout et on recommence, c'est une lucarne de Michel Platini, on recommence, bravo Michel.
Rocheteau, Six, but, oh quelle est belle, entre Six et Rocheteau. Magnifique but réussi par Didier Six cette remise de Rocheteau. C'est du grand art. Et là, je crois que maintenant, c'est fait.
Eh ouais, c'est fait. L'équipe de France s'impose 2-0 face aux Pays-Bas. Le Mondial 82 lui tend les bras. Chéri Fouet.
Oui, tout à fait. Alors, il faut revenir sur le personnage extraordinairement charismatique qu'était Michel Platini. On va le rappeler aux jeunes générations. Il a été le meilleur joueur du monde. Hein, il faut bien comprendre, Zidane est extraordinaire, Mbappé est extraordinaire, il a été le meilleur joueur du monde au début des années 80. Alors l'équipe de Michel Platini, c'est très simple. Vous regardez l'équipe de France jouer et vous savez qu'à un moment ou un autre, Michel Platini va marquer. Alors même quand il y a eu des défaites, hein, Michel Platini marquait. C'est un petit peu la différence, ma petite préférence vis-à-vis de Zidane. J'adore Zidane, il est extraordinaire, il n'y a pas de problème. Mais avec Platini, il marquait systématiquement. Et quand il y avait un coup franc, je vous assure, que ce soit les matchs en famille, entre copains. Silence. Le cœur qui bat. Il va se passer quelque chose. Michel Platini va tirer un coup franc. Et bingo. Allez, une fois sur deux, elle était au fond. C'était absolument magnifique.
Alors Alain, tu t'as souvenir de l'ambiance dans le vestiaire après cette victoire, même si, rappelons-le, hein, tu le disais au début du podcast, mais c'est pas fini hein, encore. Hein. C'est fait, mais c'est pas encore fait. Il y avait un match face à Chypre dans la foulée qu'il fallait gagner aussi. Hein.
Ah oui, il fallait aussi le gagner, effectivement. Non, mais il y avait une belle joie, une belle joie, beaucoup de plaisir, être conscient de l'importance de ce résultat, de cette victoire, c'est évident. Et en même temps, parce que c'est très drôle, parce que je vous entends énumérer toutes les défaites qu'a subies l'équipe de France, tout ça. Moi, je n'ai jamais perdu au Parc des Princes. Je n'ai jamais perdu en France avec l'équipe. Le match de Stuttgart, match amical, ok, je suis là, j'y étais. Mais les autres, je ne sais pas. Alors, quand j'entends parler du match de Brice, moi, je n'y étais pas. Je ne me sens pas concerné. C'est pour ça qu'il y avait d'autres comme moi. Ce qui voulait dire que quand on était au Parc des Princes, on avait cette force mentale de savoir que c'était au Parc des Princes. Quand je quittais Bordeaux pour aller jouer un match avec l'équipe de France à Paris, je ne disais pas chez moi, j'espère qu'on va gagner. J'ai dit, on va gagner, je ne sais pas par combien, mais on va gagner. Voilà, donc on avait, par rapport à ces matchs-là, et on savait que les Chypre derrière, bon, on raisonnait comme ça, sans suffisance, sans orgueil mal placé, mais on savait que de toute façon, la victoire, il a fallu, et on le fera. Parce que vous venez de le dire, avec un garçon comme Michel, qui à tout moment, allez, nous, de dénouer le problème, que nous, on allait contribuer à lui permettre de pouvoir le faire, et la capacité de trouver des moyens de mettre hors de position, et notamment une défense chypriote.
Mon Polo, j'imagine que tu étais comme un fou dans les tribunes.
Ben, oui, en fait, je suivais l'ambiance, si tu veux. Parce qu'encore une fois, je ne connaissais pas les codes dans les stades, mais je ne savais même pas l'histoire du classement. C'est par la suite, évidemment, que je le découvrirai. Mais je garde encore une image d'un parc en feu. Je le dis simplement, j'ai eu l'impression de vivre en osmose avec mon peuple ce soir-là. C'est-à-dire, c'était un soir de 81, l'hiver arrivait, il y avait ce match-là. En face, c'était les Pays-Bas. On sait ce que ça représente à cette époque-là, les Pays-Bas. Et puis, il y a une victoire extraordinaire. Vous avez parlé évidemment de Michel Platini. Moi, je suis désolé. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y a Gianginetti, Tigana, Chiengini, Giresse et Platini, c'est-à-dire trois, il y a au minimum deux numéros 8 et des numéros 10, mais plus trois attaquants, c'est-à-dire que j'aimerais bien que le foot d'aujourd'hui soit en osmose avec cette composition qu'on voyait à l'époque. Alors évidemment, les joueurs d'aujourd'hui ont des physiques beaucoup plus évoluées, peut-être que la technique est plus importante, mais ce que je vois, c'est que c'était un match extraordinaire que j'ai pas envie de et je savais même pas que ce match allait devenir culte, en fait. Or, il est culte. Vous allez même sur la page Wikipédia, on vous en parle aujourd'hui comme un match culte, avec une ambiance spéciale, etc. Moi, c'était un match comme un autre. Hein. Je pouvais lire l'équipe peut-être une fois tous les trois mois, tu vois. C'était mes débuts d'apprentissage dans le monde du foot, à 10 ans, évidemment. Mais ce match au Parc, pour moi, il est dans ma tête et il sera toujours là. Et je remercie évidemment Alain de m'avoir donné ce plaisir avec les autres, quoi. C'est fou.
Alors oui, deux petites réflexions. La première, c'est que je pense, et c'est pas du tout la nostalgie, que l'équipe de France de cette époque était plus technique au niveau des individualités. Il suffit de regarder par exemple la France-Allemagne, vous verrez l'équipe de France, ça joue à une touche de balle en exter, inter et la tête levée. Je suis désolé, c'est pas la mémoire de vieux cons, c'était vraiment une grande équipe de qualité. Sinon, pour en venir, ça a été aussi un match marquant pour les Pays-Bas parce que c'est le coup d'arrêt des Pays-Bas. C'est la première compétition internationale qui ne dispute pas, avec la fin vraiment de la grande génération des Hollandais, c'est-à-dire Niskens, Krol et Rep. Donc ouais. Malheureusement pour eux, la France va précipiter les Pays-Bas dans le trou noir parce que les Pays-Bas ne feront pas la Coupe du Monde 82, ni l'Euro 84, ni la Coupe du Monde 86. Et c'est de la faute des Français.
Tiens, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Chérif, Alain, est-ce que tu penses, toi, que ta génération, elle prenait plus de plaisir, elle kiffait plus sur le terrain que la génération actuelle
Non. Moi, je pense que les joueurs... Après, on ne parle pas des caractéristiques des joueurs, de l'évocation, des styles de jeu qui étaient fatalement différents. Mais par contre, non, le joueur, quand il rentre sur le terrain... Il prend du plaisir, ça reste. Ils ont envie de partager quelque chose. On l'a vu dans un match samedi qui, en termes d'adversité, n'était pas redoutable, mais qu'il fallait prendre au sérieux, se faisant en même temps sérieux et en se faisant plaisir. Et ils ont réussi, voilà. Donc non. Nous, il faut pas traduire le fait que justement notre jeu n'était pas le même. On n'avait pas la même expression dans notre football. On était plus joyeux. Bien sûr que c'était notre style à nous et on avait envie de jouer comme ça parce que c'est ce qui nous correspondait. Voilà. Non, je pense pas que les joueurs de maintenant et encore, il faut rendre grâce à ce côté-là. Ils ont quand même envie de jouer, de faire des grands matchs.
Alors, le grand vainqueur de ce France-Pays de Bas de 1981, c'est aussi et surtout le sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo. Au lendemain de la rencontre, il est l'invité d'Yves Mourouzi dans le JT TF1.
On a gagné, chantait la France entière hier soir. Bravo et merci. Titre ce matin en énorme, notre confrère l'équipe. Et moi, je donnerai comme titre à ce journal, il a gagné. Car au moment du résultat, c'est à Michel Hidalgo que j'ai pensé avec un certain nombre de mes confrères. Michel Hidalgo qui avait... gagner contre les doutes, contre les critiques, sur le banc au dernier moment du match. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête ?
Oh, il y avait beaucoup de choses, et j'allais dire qu'il y avait surtout beaucoup de choses à l'intérieur de l'estomac, parce que j'avais des crampes. Il y avait aussi beaucoup de choses, surtout dans le cœur, et c'est ce qu'on avait recherché à travers ce match, c'était qu'il y ait certains sourires qui reviennent sur les stades et autour des stades de football.
À la voix suave de Michel Hidalgo qui nous manque beaucoup. Alain, est-ce que tu le sentais tendu avant ce match, Michel Hidalgo ? Est-ce que tu sentais qu'il jouait sa tête, tout simplement ?
Oui, et en même temps, ça fait quelque chose de l'entendre là, au micro. Oui, Michel, oui, il était conscient. Ce match-là, quand on parle de son importance, il a eu une importance effectivement énorme et parce que derrière, ça aurait pu être, on rasait la maison. Hein. La maison équipe de France était rasée pour tout reconstruire. Et je pense que Michel Hidalgo, en tant que sélectionneur, en aurait aussi subi les conséquences. C'est une évidence. Et donc c'est pour ça que, avec sa sensibilité, il était pris, il ne nous l'a jamais montré. Parce qu'au contraire, il démontrait toujours un enthousiasme pour avant les matchs. Mais ça pouvait être lourd de conséquences pour lui aussi.
Oui, Chérif.
Oui, Michel Hidalgo est un homme seul, est un homme attaqué. Je me rappelle des images, j'étais jeune, d'une interview à la télé. Il est sur un fauteuil, il est vraiment pris entre quatre feux par, par, par les journalistes, c'est des questions vraiment... En fait, il n'est pas sur un fauteuil éjectable, il est sur, plutôt sur une chaise électrique. On est prêt vraiment à le sacrifier en cas de défaite. Et je précise qu'il y avait une rancune de la part des médias, c'est que la France ne s'était pas qualifiée pour l'Euro 80, elle avait été éliminée par la Suède, et ça restait en travers de la gorge des médias, mais ça je m'en rappelle, et ils avaient fait... outre Michel Platini, un futur bouc émissaire avec Michel Hidalgo. Et je me rappelle, c'est les images, mais dans la pénombre, la dernière interview qui donne juste avant le match, et on attend vraiment d'actionner la guillotine pour le voir exécuter. Je vais vous sortir une phrase de Michel Platini, hein, c'est après le match. Les journalistes sont arrivés dans le vestiaire armés de leurs stylos, mais c'est avec des mitraillettes qu'ils seraient venus si on avait perdu contre les Pays-Bas. Ouais, ça veut tout dire.
Ça dit tout, hein, Paulo.
Ça veut tout dire.
Tout à fait, mais encore une fois, on oublie. Mais ça, c'est aussi peut-être aussi, moi, je trouve toujours le manque de respect par rapport à l'adversaire aussi. Parce que c'est les Pays-Bas. Alors, ok, Shérif a raison, c'est pas le Pays-Bas des années 70, sauf qu'il y a quelques noms, quoi. Hein. Il y a quand même Keith Rivers qui est encore le sélectionneur, et c'est pas n'importe qui. Donc, si tu veux, la France, elle est quand même un peu à la rue. Dans les années 70, évidemment, on a Saint-Etienne, on a Bastia. Là, il y a la Coupe du Monde 78, on est en train de monter une belle équipe à Bordeaux. C'est la fin de Saint-Etienne aussi, je crois que c'est son dernier titre en 81 de mémoire.
81, c'est ça.
Ouais, et donc, il y a tout ça, et on cherche un peu toujours à montrer qu'on est aussi fort que les autres, etc. Mais il faut le prouver sur le terrain. Et je trouve que la presse française en général, hein, je ne vais pas prendre de personne en particulier, a toujours tendance à vouloir être au-dessus des autres. Et moi, je sais qu'on... Moi, je dis honnêtement, je suis né avec le football belge dans les années... fin des années 70, début 80, parce qu'ils dominaient avec Anderlecht, Standard, le FC Bruges en Coupe d'Europe. Hein, ils ont plusieurs finales, etc. Cette équipe qui est finaliste de l'Euro 80 est extraordinaire. Avec Verkotteren, Kuhlmann, etc. Et Eric Gerets. Et en fait, tu te demandes, mais on est quoi par rapport à eux ? C'est ça. Et en fait, à chaque fois, c'est « mais si, on doit les battre ». Ben non, Alain, on nous a prouvé qu'ils sont capables de les battre, mais pourquoi est-ce que ce serait systématiquement, pourquoi est-ce qu'on doit les battre ? Non, c'est une histoire de compétition, c'est compliqué pour Michel Hidalgo. Moi, je sais qu'à la maison, Michel Hidalgo, ben mon père, il ne fallait pas trop lui en parler. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, il y a les goûts et les couleurs. Ce qui est sûr, c'est que si la France ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 82, je ne sais pas combien de temps ça aurait duré, parce qu'il y avait l'Euro 84 qui arrivait à domicile. Quand même, faut pas l'oublier ça. Moi, je sais pas ce que ça serait l'équipe de France aujourd'hui. En tout cas, on aurait sûrement encore pris du retard sur différentes nations.
Alors, justement, pour conclure, Alain, est-ce que tu dirais que ce France-Pays-Bas du 18 novembre 1980 était un virage dans l'histoire de l'équipe de France ?
Oh combien, plus qu'un virage. Effectivement, ça a été le socle qui a permis derrière toute l'aventure que nous avons eue, notamment. La victoire à l'Euro, la troisième place en 86, voilà. Et pour l'équipe de France et pour le football français en général, oui. Et c'est très drôle parce que ce match-là, il est un peu caché par le titre à l'Euro, par France-Allemagne, à Séville, etc. Mais son importance, elle est bien réelle.
Et oui, la suite de l'histoire, tu viens de l'évoquer, hein, elle fait partie de la légende. La France atteindra les demi du mondial en Espagne. Elle sera sortie à l'issue d'un mythique match face à la RFA. Hidalgo restera 8 ans au total à la tête des Bleus. Un record de longévité qui ne sera battu que bien des années plus tard par Raymond Domenech. Hidalgo qui remportera avec les Bleus l'Euro 84. Voilà, ce podcast touche à sa fin, messieurs. Alain Giresse, Shérif Guémour, Paulo Breitner, merci de nous avoir fait revivre cette année 1980. Shérif, qui est l'auteur de Remontada, un beau cadeau pour Noël, hein, c'est aux éditions Larousse.
Oui, c'est un beau livre sur les Remontada, comme la France en 81 hein, contre les Pays-Bas. Ils ont remonté après une série de défaites inquiétantes.
Et en plus du but de Shérif, vous allez aussi vous offrir la bio d'Alain Giresse, né pour jouer aux éditions Robert Laffont, hein, Alain.
Oui. oui, un peu tardive, mais bon, après sollicitation. Non, mais je dis ça, je n'avais pas prévu d'en faire une, mais on m'a sollicité. Ah bah écoutez, je me suis laissé séduire, voilà.
Eh bah, bien, t'as bien raison, et ce sera séduisant à lire également. Merci mon Polo.
Merci à vous les gars.
Voilà, on se quitte en musique avec l'un des tubes de cette année 80. Alors, outre Vertige de l'amour d'Alain Bashung, Couleur Mentalo d'Eddie Mitchell, La danse des canards, il y avait surtout ça.
Pour le plaisir.
Bien sûr.
Ah oui.
Non, Robert pas Léonard, magnifique. Merci Arthur Robert et Jérôme Thomas à la production, Gilles Doro à la réalisation. On se retrouve très bientôt pour le plaisir, bien sûr.
Enfant,
dans sa peau, le sourire sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou. Et un soir, tout claqué d'un seul coup. Sans réfléchir.